Las s'ouvre alors pour lui un long tunnel fait de séjour en prison, d'exil, mais également gestation et naissance d'une pensée de rupture en littérature. Il théorise dans son maître ouvrage « Décoloniser l'esprit » et en donne les recettes. Il change de nom et de dimension. On en parle juste après le journal sur RFI. À tout de suite pour continuer notre hommage à un des géants de la littérature africaine, Ngugi wa Thiong'o. C'est un visage et une voix souriante, avec l'apaisement lumineux de ceux qui ont rempli leur tâche, un œil toujours rieur et cette malice avenante et chaleureuse. Ngugi wa Thiong'o est dans votre tranche d'histoire aujourd'hui. Il est parti à 87 ans. On lui rend hommage. Je ne pouvais rêver meilleure compagnie que mes invités du jour. Boubacar Boris Diop est un de ses héritiers, sinon son héritier, et des exégètes aussi de son travail. Maëline Lelay, chargée de recherche au CNRS, et Nathalie Carré, professeure de littérature Swahili à l'INALCO. La vie du grand écrivain kényan coche toutes les cases d'un grand destin, celui d'éclairer, d'avant-gardiste, celui de combattant courageux, celui de porteur de principes qui le conduiront en prison. Début d'une relation à son pays complexe, faite de censure, de violence directe ou indirecte, pour un prophète qui devra consentir à partir et dont l'œuvre plus que jamais raconte comme personne son pays et peut-être même le continent. On va l'écouter justement sur ses déboires avec le Kenya de Daniel Arap Moi. C'était toujours au micro de Florence Maurice.
How come that a government led...
Comment se fait-il qu'un gouvernement dirigé par un Kikuyu, lui-même originaire du Mont Kenya, puisse décider de m'emprisonner pour avoir écrit en Kikuyu? Qu'est-ce qui se joue là? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser le lien entre pouvoir et langage et que j'ai décidé d'écrire tous mes romans en Kikuyu et non en anglais.
To now be writing my novels, my fiction, my poetry in Kikuyu, not English.
Nathalie Carré, je voudrais qu'on parle de cette séquence qui le voit écrire cette pièce de théâtre dans le Kenya de Daniel Arap Moi. Nous sommes en 1977. Que reproche-t-on à cette pièce « Je me marierai quand je voudrai » ?
Ce qu'on lui reproche avant tout, et ça a été très bien dit, c'est-à-dire c'est de toucher directement les gens, parce que évidemment quand on écrit dans la langue du peuple pour aller vite, forcément ils sont touchés, impactés, et donc forcément ça ne plaît pas. Alors c'est Kenyatta hein, qui le fait emprisonner. Parce que Ngugi, évidemment, débat de thèmes de société, et notamment, Ngugi a des discours très anti-colonialistes et anti-libéraux, et que ça ne plaît pas du tout à cette époque, et puis qu'il a une force, je dirais, de public, de gens qui participent, et que c'est pas des livres qui restent là sans être lus, c'est des paroles qui circulent.
Est-ce que c'est aussi lui le précurseur de cette forme de théâtre populaire, très très inclusif, qui touche à une plus grande population? Est-ce qu'il est un des précurseurs aussi de cette dynamique?
Il est quelqu'un qui l'a réinvesti, parce qu'en fait le théâtre, les scénettes, ça a déjà existé avant, et c'est justement, il s'empare de la meilleure forme pour pouvoir aller parler directement aux gens. Et en cela on voit bien, je vais juste citer un autre exemple, celui de Matty Gary, qui du coup fait très peur parce qu'il est écrit aussi en Kikuyu, et qu'en effet le gouvernement pense que Matty Gary existe vraiment et que c'est un être vivant qu'il faut aller emprisonner. Et ça, s'il avait écrit en anglais, parce que ça touche beaucoup moins de monde, en fait.
Maëline Lelay, justement, d'ailleurs, on va parler de réception. Votre travail porte particulièrement sur la littérature de cette région des Grands Lacs. Comment l'œuvre de Ngugi est reçue dans cette région et dans le continent?
Pour parler de la région d'Afrique des Grands Lacs, donc l'Est du Congo, le Rwanda et le Burundi, le nom de Ngugi est connu, et ce texte en particulier, hein, Decolonizing the Mind, Décoloniser l'esprit, est connu. Mais en réalité, les textes circulent assez peu. Il faut savoir que c'est une région qui est majoritairement francophone, swahilophone aussi, mais les textes, les traductions swahili ne circulent pas. Les traductions françaises sont malheureusement assez peu nombreuses et sont en fait n'existent pas vraiment ou en quantité très limitée dans la région. Ce qui fait que je me suis rendu compte que les écrivains qui pourtant connaissaient Ngugi, hein, comme en fait finalement plus comme figure d'écrivain engagé, en réalité avaient peu accès aux textes de Ngugi, mais étaient bien sûr très intéressés. Au Kenya, c'est bien sûr autre chose, hein. Il est un monument national.
Boubacar Boris Diop, à l'échelle du continent, comment appréciez-vous justement sa notoriété et la connaissance de son œuvre? Peut-être d'ailleurs dans un pays qu'on a en commun, le Sénégal.
Ce qui prouve que Ngugi est important, paradoxalement, c'est qu'il n'est pas aussi lu qu'il aurait dû l'être, quoi. Et tout le monde le connaît. Bon, tout le monde a entendu parler de Colliding the Mind. Tout le monde sait à peu près qui est Ngugi, pourquoi il s'est battu toute sa vie. Et maintenant, les textes eux-mêmes ne sont pas aussi connus que cela. Mais ça, je crois qu'il y a peut-être l'exception de Achille. C'est le texte vraiment écrit dans un pays anglophone qui est lui est très connu. À part ça, les autres, et c'est pareil de moi, j'ai été au Nigeria, hein, j'ai enseigné là-bas, ils ne connaissaient absolument pas les auteurs francophones. Et donc, ce qui reste est ça. C'est une forme de consécration pour un auteur, hein. C'est peut-être la gloire ultime, quoi. Ces idées ont tellement pénétré dans la société que on a l'impression de les avoir lus. Mais attention, pour finir, il n'y a pas que les livres. Il y a les prises de position publiques, dans les conférences, dans les entretiens. Vous venez d'ailleurs d'en passer quelques-uns, etc. Et donc, la presse, les réseaux sociaux, tout ça, ça construit l'image d'un mouvement littéraire. Et pour nous qui nous battons pour les langues africaines, Ngugi, c'est une... comment dire, c'est une bénédiction. Ce combat sera d'autant plus pris au sérieux sur le continent africain qu'il sera toujours associé à la figure imposante de Ngugi wa Thiong'o.
Une bénédiction et avec déjà une patte, un regard, une proximité avec les populations et la volonté de sortir la littérature du seul cercle des élites, Ngugi s'ouvre un chemin, mais il en ouvre aussi pour beaucoup d'autres. Et ce chemin, en parallèle d'une œuvre riche qui s'étoffe, c'est l'exil aux États-Unis. C'est pendant cette période qu'il écrit son œuvre la plus marquante, qui dès sa parution marque une rupture et ouvre une perspective. Nous sommes en 1986, Décoloniser l'esprit, Decolonizing the Mind. Dans l'univers des essais, c'est un essai percutant, une décision d'écrire dans sa langue, le Kikuyu. Face à l'incrédulité totale, il s'y conforme pourtant et construit une œuvre en Kikuyu majeure. James Ngugi devient Ngugi wa Thiong'o et la voie qu'il ouvre fera des héritiers dans la nécessaire valorisation des langues, pas seulement dans une perspective identitaire, mais surtout par cette évidence qu'il dit lui mieux que quiconque. Et c'était sur notre antenne avec Laurent Corot.
I believe that all languages.
J'ai la conviction que toutes les langues, y compris les langues européennes, ont une grande richesse culturelle et une grande richesse scientifique. Et j'ai la conviction qu'aucune langue ne doit rester isolée des autres langues. Il faut que nous fassions dialoguer les langues au travers de la traduction. C'est pour cela que j'ai traduit « Le médecin malgré lui » de Molière en Kikuyu.
On voit ici justement l'universalité et la portée très très générale justement de son intention. Ce livre, justement, quelle a été son importance, la magnitude, si on peut dire, de la réception de ce livre, Nathalie Carré?
Alors, je pense que c'est un livre qui est toujours vraiment d'actualité. Moi, je le fais souvent étudier donc à l'université. Et alors, souvent, pour des jeunes étudiants, c'est une révélation. Je dirais qu'en fait, ils vivent encore dans un monde où leurs langues ne sont pas forcément très valorisées, où parfois ils ne savent même pas qu'elles s'écrivent, qu'il y a des littératures. Et le positionnement de Ngugi dans ce texte, qui est très accessible, très autobiographique, très simple, leur va vraiment droit au cœur. Moi, j'ai souvent eu des étudiants qui m'ont dit « Ah, mais pour moi, c'est une révélation !» Et ça, je pense que c'est une de ses plus grandes victoires, en fait, de continuer à parler. Évidemment, hein, le combat n'est pas... il est encore long pour la reconnaissance et le fait que les auteurs se mettent à publier en langue africaine. Mais je pense qu'en effet, ça fait l'effet d'un coup de tonnerre. Renoncer à l'anglais pour ce... Enfin, en plus, le Kikuyu n'est pas, comme le Swahili, une langue qui a tant de locuteurs que ça. Alors après, il faudrait passer parler justement du rôle du Swahili dans la diffusion de la pensée aussi. Mais c'est toujours très motivant et très inédit, en fait, comme choix.
Maïline Lélé, rentrons un peu plus dans le livre. Bien sûr, on en connaît le titre. Parfois, Boubacar Bouzioub le disait, on ne connaît hélas que le titre, il n'est pas suffisamment lu. De quoi est fait ce texte? C'est un essai qui est construit sur la base de beaucoup de réflexions qu'il rassemble. Est-ce que vous pouvez nous aider à toucher du doigt la matérialité de ce texte?
Oui, je dirais que c'est un essai fragmentaire qui comporte des éléments autobiographiques, comme l'a dit Nathalie. Donc, en très résumé, en fait, finalement, son parcours de vie, son enfance, avec justement la présence du kikuyu, du conteur, de la conteuse, comme on le lit davantage plus longuement dans Rêver en temps de guerre. Et puis effectivement de réflexions qui naissent toujours de l'expérience. Donc il raconte Makerere, la conférence en Ouganda en 62. Il y a un chapitre consacré à ce qu'on a appelé The Great Literature Nairobi Debate, donc le grand débat à l'université de Nairobi, au cours duquel, ou plutôt provoqué par cette décision très provocatrice en fait de Ngugi, qui n'était pas seule d'ailleurs, je ne sais plus avec qui d'autre, il avait demandé en fait l'abolition du département d'anglais, considérant que c'était une aberration qu'en littérature on étudie finalement que Shakespeare et les classiques anglais. Donc tout ça, il le raconte et c'est finalement un ensemble de réflexions et d'expériences qui l'ont amené à prendre cette décision. Donc c'est une sorte de théorisation à partir de son expérience, théorisation de cette décision d'écrire de la fiction uniquement en kikuyu.
Nathalie Carré, bien sûr, quand on parle de l'œuvre d'un géant comme ça, on reste sur quelques titres. Quels sont les autres livres aussi importants de l'œuvre littéraire de Ngugi Wa Thiong'o?
Alors, Le Diable sur la Croix, moi je le trouve assez passionnant, et puis il est très ancré dans une réalité africaine, c'est une dénonciation des élites corrompues, donc très parlante. Celui qui est peut-être le plus marquant d'un point de vue d'un tour de force, c'est le dernier, Murugi wa Kagogo, qui est vraiment une espèce de somme qui brasse alors justement toutes ces figures de l'imaginaire, avec des personnages plus grands que nature, qui vont justement corrompus, et où là, Ngugi, sur plus de 700 pages, écrit vraiment en kikuyu, et donne finalement à la fois à lire et à entendre justement toute la richesse des littératures africaines, de ces mythologies, et c'est très nouveau en fait. Parfois ça dérange la réception de Ngugi parce que ça ne correspond pas au roman classique européen, mais c'est fait pour ça aussi, pour faire bouger les lignes.
Écrire un kikuyu contre vents et marées, s'y tenir, c'est le pari réussi. Ngugi Wa Thiong'o inaugure un cycle et remet l'évidence de l'enjeu des langues au cœur des débats. C'est de cet écosystème entre fortune et infortune, réception, surface réduite des réceptions, que je voudrais maintenant qu'on parle. C'est sans doute son plus grand héritage à côté de son œuvre majestueuse, intellectuelle, aux sphères de transmission, par exemple, comme l'INALCO vous enseignez. Comment ce qu'a semé Ngugi Wa Thiong'o peut-il germer et faire justement école et créer un écosystème en langues africaines? J'ai envie de vous poser la question à vous, Boubacar Boisdiop. Pour le Sénégal, il y a un élan que vous portez, maison d'édition, site d'information. Quels sont justement les autres projets pour pérenniser l'ouvrage?
Au fond, l'histoire, c'est une affaire de longue haleine. Mais en même temps, des choses vont très vite. Il faut tout de même rappeler que Cheikh Aliou Ndao, dès 1962, je crois,
écrivain sénégalais en wolof.
Oui, écrivain sénégalais. En français d'abord, puis en wolof. Il écrit Bourtilène, le roi de la Médina, mais il ne trouve pas preneur. Tout le monde lui met au nez, ce n'est pas très très sérieux. Mais je peux remonter encore plus haut. Bakary Diallo, avec Force Bonté, c'est le texte fondateur de la littérature africaine d'expression française. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'avant Force Bonté, il avait écrit des poèmes en poulard, sa langue maternelle. Là non plus, personne n'en a voulu. Donc au fond, le fleuve retourne à sa source, quoi. Chakanta Diop, il dit que la littérature africaine d'expression française, portugaise ou anglaise, lui, il considère ça comme une parenthèse historique, comme une littérature de transition. Et c'est ce que dit d'ailleurs David Diop dans un texte. Il dit que dans une Afrique du Sud libérée, personne n'imaginerait qu'on écrive dans d'autres langues que le Zoulou, etc. Et bon, Ngugi, c'est ça. Il le fait, il a assez d'audace pour s'en tenir à ce qu'il croit. Et aujourd'hui, ça devient évident. Ici, au Sénégal, pour finir, la littérature sénégalaise d'expression poulard, wolof, surtout ces deux langues-là tout de même, eh bien, elle est en train de surpasser en quantité. En qualité, je ne suis pas qualifié pour juger. Je risque de ne pas être objectif, mais en quantité, elle est en train de surpasser la production en langue française.
Une dernière question à Maëline Lelay et à Nathalie Carré. Justement, vous qui apprenez justement à vos étudiants cette aventure littéraire très riche de Ngugi wa Thiong'o, qu'est-ce qu'il manque encore à cet écosystème pour qu'il y ait une forme de pérennité et de prospérité des littératures en langue africaine? Nathalie Carré, ensuite Maëline Lelay.
Il faut bien dire que c'est de haute lutte économique, je dirais. C'est-à-dire que il faut des éditeurs prêts à publier les ouvrages. Et puis surtout, évidemment, il faut des lecteurs. Et connaître une langue, savoir la parler, c'est pas forcément savoir la lire. Donc il y a tout un travail de fond, et sans la réflexion politique et sans le positionnement politique qu'avait évidemment Ngugi, qu'a Boubacar, qui s'inscrit évidemment dans la durée, c'est dur. Mais je pense que c'est en train de... Enfin voilà, quand je vois par exemple ce qu'a fait Boubacar au Sénégal, ben, je me dis, il y a vraiment de l'espoir.
On sent ce frémissement à l'INALCO, vous enseignez?
Oui, alors il y a les deux à l'INALCO, c'est-à-dire qu'en fait il y a encore un poids, là par exemple, c'est vraiment une anecdote, mais moi je fais partie du master de traduction littéraire et on auditionnait quelqu'un, une Sénégalaise, qui venait pour faire de l'arabe en traduction. Puis en arabe, on sentait bien qu'elle n'était pas forcément hyper au point, mais dès qu'elle a commencé à parler de littérature wolof en wolofane, moi je l'ai senti complètement s'ouvrir, et du coup je lui ai dit... Pour l'arabe, ça risque d'être un peu compliqué. On avait notre collègue qui était là. Mais j'ai dit, par contre, vous voudriez pas le faire en wolof? Et pour elle, c'était pas une option possible. Donc, il faut qu'on lutte pour dire que non, on peut.
Maëline Lelay.
Alors, je dirais que, comme Nathalie, bien sûr, hein, les structures économiques et donc notamment éditoriales sont capitales. Néanmoins, ce qu'on peut quand même constater, c'est que sur place, sur le continent, en l'occurrence au Kenya, sur la côte kenyane, il y a quand même une plateforme qui s'appelle Ikaya Arts Initiative et qui soutient la littérature écrite en swahili, également en français, avec en fait très peu de moyens. Donc avec l'appui du Swahili Cultural Center, mais très peu de moyens, avec ils parviennent à faire des festivals, à éditer des livres. Et je voudrais peut-être simplement aussi rappeler que en dehors même de l'écriture en langues africaines, sont les textes de Ngugi, même ceux qui sont écrits en anglais et qu'on veut traduire en français, sont très difficiles en fait à diffuser en France. Hein. Jean-Pierre Orban, qui est à l'initiative de la traduction de Rêver en temps de guerre, pourrait en témoigner, hein, de la difficulté qu'il a eu à trouver un éditeur, une éditrice qui accepte d'éditer ces textes de Ngugi qui pourtant sont écrits en anglais.
Merci. En deux mots, pour parler de l'homme dans un côté un peu plus intime, on a commencé par son enfance. Boubacar Boudiop, Ngugi wa Thiong'o, en deux mots.
Il donnait l'impression d'être toujours dans une interaction très personnelle. Alors, beaucoup de gens de son calibre intellectuel et tout ça, il se la joue un peu compliqué, inaccessible, difficile. Ngugi était très, très humain. On le sait, il a été très malade pendant longtemps. Et pourtant, quand on lui parlait au téléphone, il était toujours blagueur. Oui. Ça dit, on n'avait même pas l'impression qu'il était malade. Et puis, il est parti très, très rapidement parce que la veille, une amie lui a parlé. Et puis, il était normal, très bien. Et puis le lendemain matin, c'était fini.
Merci.
Il était extrêmement humain.
Humain, on restera sur ça. Merci infiniment, Boubacar Boris Diop, écrivain, journaliste, lauréat du prix Neustadt. Dernier roman, Un tombeau pour Kine Gallo, c'est aux éditions Philippe Ray. Nathalie Carré, agrégée de lettres modernes, actuelle maître de conférence en langue à littérature swahili à l'INALCO. Et Maëline Lelay, chargée de recherche au CNRS, vous travaillez tout particulièrement sur la région des Grands Lacs. Merci pour cet hommage au géant Ngugi wa Thiong'o.
Merci.